Bienvenue sur le podcast pour un plein épanouissement affectif et cognitif. Un podcast pour les apprenants, les parents et les profs qui veulent plonger dans la pédagogie Montessori et les neurosciences. Avant d'écouter ce nouvel épisode, j'ai trois propositions à vous faire. Si vous êtes parent d'un enfant au collège et que vous avez à cœur son plein épanouissement, vous pouvez télécharger gratuitement sur mon blog le PDF « Le cerveau des adolescents est littéralement génial ». Si vous avez des enfants ou des élèves entre 7 et 12 ans, vous pourrez découvrir « Je mémorise la conjugaison », une méthode que j'ai créée pour que la conjugaison redevienne un jeu d'enfant. Pour les profs des écoles qui souhaitent s'engager dans une formation et être soutenus dans leur transition éducative, je vous accompagne lors de la formation Montessori, une pédagogie en cohérence avec le fonctionnement du cerveau. Parents et professeurs des écoles, rendez-vous donc sur mon blog montessori-apprendreautrement.com. Je suis Céline Guerrero, prof des écoles, formatrice Montessori, réalisatrice de ce podcast et prête à tout pour que chaque enfant développe son plein potentiel. Si ce podcast vous plaît, je compte sur vous pour laisser un commentaire sur votre plateforme d'écoute et une note de 5 étoiles si vous êtes sur Apple Podcast. C'est la meilleure solution pour donner de la visibilité au podcast et contribuer vous aussi à cette transition éducative. Et partagez les épisodes qui vous plaisent avec vos amis et vos collègues. Vous écoutez l'épisode 78 avec Nadine Godin, maître formatrice en discipline positive. Donc Nadine forme des parents, des enseignants, des entreprises pour leur faire découvrir ce qu'est la discipline positive. J'ai commencé notre échange en lui demandant ce que la discipline positive n'est pas. Ce n'est pas la permissivité, ce n'est pas le monde des bisounours. Mais une méthode pour développer les compétences psychosociales avec fermeté et bienveillance. Nadine nous a donné aussi sa définition du courage, que j'ai beaucoup appréciée. Et je lui ai demandé les principes adlériens, car la discipline positive est née grâce à deux psychiatres, Alfred Adler et Rudolf Dreikers. Et Nadine nous a aussi parlé de coopération. Je laisse place à ma conversation avec Nadine Godin. Bonjour Nadine, bienvenue sur le podcast.
Bonjour.
Je suis ravie de vous accueillir pour parler aujourd'hui de discipline positive. Est-ce que vous pouvez nous dire déjà quel est votre lien avec la discipline positive ?
Alors, je suis formatrice en discipline positive. Depuis pas loin de 10 ans maintenant. Et je forme les enseignants, les cadres, les managers, les parents, les formateurs à la discipline positive.
D'accord. Et si on revient en arrière, il y a 10 ans, comment tout ça a démarré ? Qu'est-ce qui vous a plu dans la discipline positive ? Racontez-nous un petit peu le démarrage.
Alors, j'ai toujours été très intéressée par les sujets qui touchaient à l'autorité. Je suis enseignante de formation et mon mémoire d'études que j'ai fait sur l'autorité, le cadre, les limites, comment amener les enfants vers le meilleur pour eux, a toujours été un sujet qui m'a intéressée. En tant qu'enseignante, pas que j'ai eu spécialement de problèmes de discipline, au contraire... J'avais plutôt une autorité naturelle, mais c'était un sujet qui me semblait très sensible et que j'avais envie vraiment d'approfondir et de comprendre mieux. Il y avait quelque chose qui me semblait incohérent dans la façon dont on gère la discipline à l'école et en famille. Et donc, j'ai lu beaucoup de livres, j'ai suivi énormément de formations et à chaque fois que je lisais des livres et que je suivais des formations, je me disais « c'est génial parce que j'ai un caractère assez enthousiaste ». Et puis après avoir lu ou suivi les formations, je revenais dans ma classe avec mes élèves ou avec mes enfants et je me disais, en fait, c'était génial. Dans le livre, c'était super, mais en réalité, j'y arrive pas, moi. Et donc, en lisant ce livre, La discipline positive, je me suis dit, c'est génial. Et puis, j'ai commencé à mettre en œuvre et puis j'ai continué à me dire, c'est génial. J'ai continué à me dire, waouh, il y a des effets, je vois des différences. Moi, je me sens mieux avec ce que je fais. Et du coup, j'ai eu envie, à partir de ce moment, à l'approfondir, d'une part, et d'autre part, très vite, j'ai eu envie de transmettre ce qui, moi, m'a donné une certaine cohérence que j'ai vraiment appréciée et trouvée comme aidant. J'ai aussi découvert que c'est-à-dire que je cherchais toujours à être ce meilleur parent ou cet enseignant parfait. Et j'ai réalisé avec la discipline positive que ça, je ne le serai jamais. Oui. Je ne serai jamais le parent parfait, je ne serai jamais l'enseignante parfaite. Et ça m'a donné une telle cohérence que j'ai vraiment eu envie de partager ça aux autres enseignants, aux autres parents, de comprendre que, en fait, ce qu'on cherche, ce n'est pas ça, ce n'est pas être parfait, c'est aller vers un peu de meilleur à chaque fois. Et d'avoir des outils pour le faire, et sans penser que jamais ça serait parfait. ça m'a vraiment soulagée et aidée justement à continuer d'avancer.
J'aime beaucoup cette phrase, aller vers un peu de meilleur à chaque fois. C'est bien dit. Et est-ce que vous pouvez commencer par nous dire ce que la discipline positive n'est pas, pour les auditeurs qui n'en ont peut-être jamais entendu parler? Je trouve que ça peut être bien déjà de dire ce que ce n'est pas.
Alors la discipline positive, c'est pas le monde des bisounours. La discipline positive, c'est pas féliciter les enfants tout le temps. C'est pas dire que c'est bien quand c'est pas bien. C'est pas féliciter, c'est pas passer de la pommade, c'est pas dire c'est bien, c'est pas dire t'es génial. La discipline positive, c'est pas non plus la punition, c'est pas non plus l'humiliation, c'est pas la violence physique ou verbale ou psychologique. Qu'est-ce que c'est pas encore? Ce qu'on entend beaucoup, ouais, c'est permissif, c'est laisser tout faire aux enfants. Ça, c'est pas ça. C'est pas ne pas mettre de limites. C'est pas l'enfant roi. C'est pas le parent qui se fait déborder par ses enfants. Voilà, je crois que j'ai dit pas mal de choses,
Vous avez déjà cité pas mal de choses. Je vous invite maintenant, du coup, à définir ce qu'est la discipline positive.
Alors, la discipline positive, c'est une démarche éducative, mais ça a démarré par une démarche éducative qui a été créée par Jay Nelson et Linglot. Maintenant, ça s'est développé aussi en termes de démarche de leadership, démarche relative. En termes d'équipe, mais c'est vraiment utiliser la discipline positive avec nos enfants, mais avec nos conjoints, avec nos collègues, avec nos équipes, tout autant, qui propose de développer des compétences psychosociales. Donc les compétences psychosociales, c'est les compétences socio-émotionnelles, c'est toutes les compétences relationnelles dont on a besoin dans une relation à deux, dans une relation à trois, à cinq, à dix, à quinze. C'est-à-dire, c'est toutes ces compétences d'autonomie, de responsabilité, d'esprit critique, de capacité d'empathie, de capacité à dire les choses, de capacité à être. C'est les savoir-être, les savoir-faire au niveau relationnel. Et ça, on va le développer avec fermeté et bienveillance. C'est-à-dire que ça va être fermeté en même temps que la bienveillance. C'est pas fermeté puis bienveillance, c'est pas fermeté ou bienveillance. C'est vraiment les deux à la fois. Donc, chaque outil de discipline positive, parce que la discipline positive, c'est une démarche, mais c'est aussi une multitude d'outils concrets, va proposer de développer, avec fermeté et bienveillance, ses compétences psychosociales. Et on va avoir comme pilier central l'encouragement, parce qu'on pense que l'encouragement, c'est un levier de motivation. On pense que l'encouragement, c'est vraiment développer ce sentiment de capacité. C'est donner un sentiment d'appartenance et d'importance à la personne avec laquelle on est ou le groupe avec lequel on est. Et du coup, on va vraiment utiliser l'encouragement pour aller développer ses compétences psychosociales. Et l'encouragement, comme je disais tout à l'heure, c'est pas dire que c'est bien quand c'est pas bien, c'est pas être mielleux, c'est pas être bisounours. L'encouragement, c'est cette idée d'insuffler de la force et du courage. C'est vraiment donner ce sentiment de capacité, c'est donner du courage pour surmonter toutes les difficultés qu'on va avoir à surmonter.
D'accord. Et vous avez parlé de Jen Nelson et une autre personne, mais est-ce qu'elles se sont elles-mêmes inspirées d'Alfred Adler et le psychiatre autrichien et de Rudolf Dreikurs, je ne sais pas trop comment le prononcer? Voilà, à la base, c'est ces deux psychiatres-là qui ont développé le concept ou la méthode, je ne sais pas comment dire.
Oui, en fait, Alfred Adler a développé la psychologie individuelle, qui est en réalité une psychologie très sociale, qui est vraiment en lien, on dit individuel, mais en réalité, c'est vraiment dans l'interaction à l'autre, dans le côté très social est important pour Alfred Adler. Et de développer ce sentiment d'appartenance et d'importance, c'est vraiment ce qui est au centre du fondement de la théorie d'Alfred Adler. Et puis Rudolf Rinkurs a modélisé la pensée d'Adler. Quand on lit des livres d'Adler, ce sont des livres qui font avec des phrases de 45 lignes. Quand on lit Rudolf Rinkurs, c'est quand même beaucoup plus simple. Et il a rendu plus concret, avec des phrases plus simples, avec des mots percutants, cette pensée d'Adler. D'ailleurs, je vous recommande Le défi de l'enfant que Rinkurs a écrit, qui est vraiment très intéressant si vous arrivez à le trouver, parce qu'il n'est plus édité, mais je pense que ça vaut vraiment la peine de le lire. Et on voit très bien comment la discipline positive s'est inspirée de cette théorie. Et puis ces deux Américaines, Jane Nelson et Lynn Lott, qui ont découvert cette pensée, qui se sont dit, mais c'est tellement aidant, c'est tellement... Jane Nelson, elle est docteure en pédagogie et elle est aussi mère de cet enfant. Et Lynn Lott est thérapeute. Elles sont contemporaines aujourd'hui, elles ont un peu plus de 80 ans. Et elles se sont dit, mais comment on peut transmettre ces idées-là, qui sont passionnantes et qu'on lit dans les livres. Et elles aimaient lire et elles lisaient ces livres-là. Mais ce n'est pas le cas de tout le monde. Comment on peut les transmettre de façon assez simple et percutante pour que les gens puissent s'en emparer et utiliser ces concepts? Et en fait, elles ont créé les ateliers, les formations de discipline positive telles qu'on les connaît aujourd'hui, qui sont extrêmement concrets, qui sont très interactifs. C'est des activités expérientielles, donc les gens se mettent en situation et comprennent vraiment les concepts de façon extrêmement simple, sans jugement aucun à aucun moment. Mais du coup, elles mettent en lumière ces concepts pour que les gens puissent s'en emparer et les utiliser dès le lendemain ou dès 2 heures après leur formation dans leur quotidien. Et ça, c'est vraiment, elles ont apporté cette puissance pragmatique à la théorie d'Alfred Adler et de Rudolf Rinkurs.
Ouais, d'accord, c'est intéressant de comprendre l'origine de la discipline positive. Et moi, il y a 6-7 ans, j'avais participé aux ateliers Faber et Maslitch. Est-ce qu'on est sur la même chose? Est-ce que pour vous, c'est différent?
Alors, on n'est pas sur la même chose, très clairement, puisque Faber et Maslitch ne sont pas Jane Nelson et Lynn Lott.
Oui.
Mais ce sont des courants qui ont probablement des racines communes qui vont dans le même sens. Ce que j'entends dire, je ne sais pas si c'est vrai parce que je ne connais pas suffisamment les autres démarches par rapport à la discipline positive, mais ce qu'on dit, c'est que dans les démarches d'éducation positive, la discipline positive est la plus ferme. Donc, après, s'il faut comparer quelque chose, c'est peut-être comme ça qu'on peut le comparer. Après, je ne sais pas si ça vaut la peine de comparer. Je pense que chaque approche a ses forces et ses différences. Je pense que... Ouais. Je ne connais pas suffisamment les autres pour pouvoir donner suffisamment d'éléments.
D'accord. Alors, revenons au principe adlérien, on dit, je crois. Est-ce que vous pourriez nous les citer, s'il vous plaît, ces principes?
Alors, tout d'abord, ce qu'on peut dire pour Alfred Adler, c'est que l'être humain est un être social. On est fait pour vivre les uns avec les autres. On est fait pour être en interaction les uns avec les autres, pas pour vivre tout seul dans une cabane dans le fond d'une forêt, et que tous les comportements sont évalués les uns par rapport aux autres. Donc ça, c'est la première base de la théorie, c'est qu'on est vraiment en interaction permanente les uns avec les autres. Le deuxième point, c'est que nous sommes des êtres sociaux, nous avons deux besoins fondamentaux que sont le besoin d'appartenance et d'importance. Le besoin d'appartenance, c'est le besoin de connexion, c'est le besoin de lien. Et le besoin d'importance, c'est pas l'importance surgonflée, c'est pas cette idée d'ego surdimensionné qu'on pourrait imaginer quand on entend le sentiment d'importance. C'est plutôt le sentiment d'importance responsable. C'est-à-dire que c'est mettre en lumière la responsabilité et la contribution qu'on va donner à un groupe, quel qu'il soit, justement pour renforcer ce sentiment d'appartenance aussi. Donc j'ai une place, je donne une contribution au groupe et ça renforce mon sentiment d'appartenance. Et ça, on voit très bien que ce sont des leviers hyper puissants qui sont utilisés dans plein de groupes, mais notamment des groupes déviants parfois, comme les groupes terroristes, les sectes, etc., qui vont utiliser ce sentiment d'appartenance, qui vont renforcer la contribution et le sentiment d'importance des personnes qui sont dans ces groupes-là, parce qu'ils ont compris que ces leviers étaient extrêmement puissants. Donc, l'idée, c'est de se dire, est-ce qu'on ne peut pas le développer de façon saine au travail, dans l'entreprise, à l'école, à la maison, pour justement éviter toutes ces déviances.
D'accord.
Donc ça, c'est le deuxième principe. Le troisième, c'est qu'il y a une unité de l'être humain, qu'on est un être global et qu'on n'est pas différentes parties. C'est-à-dire qu'on n'est pas juste... Souvent, on se dit on voudrait que nos élèves, que nos enfants, que les gens avec qui on travaille soient un cortex préfrontal, soit tout le raisonnement et la logique et l'intelligence. Or, les êtres humains, on le sait bien, sont bien plus que ça. C'est-à-dire qu'ils ont des émotions, qu'ils ont une histoire, qu'ils ont plein de choses qui se passent dans leur vie. Ils ont même une généalogie, un environnement dans lequel ils évoluent. Et que ça, on ne peut pas ne pas le prendre en compte. Ce serait une erreur que de se dire on ne s'adresse qu'au raisonnement et à la logique. On sait aujourd'hui en plus, avec les neurosciences et tout ce qui se passe en termes de développement de la personne, de l'enfant, etc., que les émotions ont une place centrale dans le raisonnement et dans la logique. Donc Adler nous dit ça. Nous dit vraiment, il faut prendre en compte l'être humain dans sa globalité. Quelque chose qui découle de ça, c'est que tout comportement a une raison d'être. Si on a un comportement, on a une raison de l'avoir. Mmh. C'est qu'il y a quelque chose qui nous anime et qui nous pousse vers un but qui nous... C'est-à-dire, on ne fait pas les choses, ça ne tombe pas du chapeau, ça ne tombe pas du ciel quand on a un comportement. Et que tout ce qu'on vise à tout moment, c'est ce sentiment d'appartenance et d'importance. C'est juste que parfois, on a des façons erronées de le viser. Mmh. Donc tout comportement erroné des enfants, c'est qu'ils n'ont pas identifié quel était le bon levier pour aller vers l'appartenance et l'importance de façon saine. Et ça, c'est à nous de leur enseigner. C'est de réorienter leur comportement plutôt que de se dire qu'ils sont mauvais parce qu'ils ont eu le mauvais comportement. Mmh. Donc ça va être de les aider à réorienter parce qu'eux se sentent mieux quand ils ont un comportement constructif et nous aussi. Donc ça va être juste de les accompagner et de les aider à aller vers ces comportements-là. Et pour ça, on a deux leviers qui sont l'encouragement, comme je vous disais, insuffler de la force, insuffler du courage, et le respect mutuel. Le respect mutuel, c'est un peu différent de ce qu'on entend habituellement. Habituellement, on entend « je te respecte, tu me respectes ». En discipline positive, ça va être « je te respecte et je me respecte ». Et je respecte les besoins de la situation. Mmh. Donc jamais on va forcer quelqu'un à nous respecter. C'est-à-dire que le respect, je ne sais pas si quelqu'un a déjà essayé de vous forcer à le respecter, mais tout ce qu'on peut obtenir à ce moment-là, c'est de la soumission, ce n'est pas du respect. Donc l'idée, ça va être de se dire, on va se respecter nous, respecter les besoins de la situation et respecter la personne qui est en face de nous à tout moment. Et là, à partir de là, on va enseigner ce qu'est le respect à l'enfant, on va enseigner ce qu'est le respect à l'autre, et on aura peut-être du respect ou pas. Mais ça dépend plus de nous, en fait. Oui. Il y a un moment où il faut se rendre compte que le comportement de l'autre ne dépend pas de nous. Nous, tout ce qu'on peut faire, c'est mettre le plus de chances de notre côté. Et tout ce que propose Adler dans sa théorie, et Jane Nelson et Lynn Lott, sont des théories assez anciennes, du début du siècle. Adler était contemporain de Freud. Et toutes ces théories-là sont corroborées aujourd'hui par les neurosciences, par toutes les découvertes psychologiques qu'on a. C'est intéressant de se dire, en fait, il avait eu ses intuitions à l'époque, il avait développé une théorie, mais qui aujourd'hui est validée par tout ça. Donc on va vraiment s'appuyer aussi en discipline positive sur toutes ces découvertes scientifiques, pédagogiques, psychologiques qu'on découvre. Et qui nous aide à créer de nouvelles activités et à mieux comprendre l'être humain dans sa globalité aussi.
Mmh. Et dans les principes d'Alfred Adler, est-ce que vous les avez tous cités ou est-ce qu'il y en avait d'autres ?
Je pourrais... Après, la théorie d'Adler est très très complexe et je pourrais en citer d'autres. C'est-à-dire qu'il y a les principes adlériens... issus par la discipline positive, on pourrait dire les erreurs sont de merveilleuses opportunités d'apprentissage, la responsabilité va avec la liberté, enfin, toutes ces idées-là sont aussi dans la discipline positive et dans la théorie adlérienne, mais de façon un peu plus sous-tendue. Mmh. Donc, je pourrais élaborer, si vous voulez.
Oui, d'accord. Mais ces deux principes-là, ce sont aussi des principes de Maria Montessori, par rapport aux erreurs aussi, qui sont des opportunités d'apprentissage.
Ils étaient contemporains, je pense qu'ils se sont rencontrés, Adler et Maria Montessori, et qu'ils ont forcément eu des discussions et en tout cas été dans le même type de courant, développer l'autonomie. Adler était aussi très, très, très... c'est-à-dire que ça va être vraiment pousser l'autonomie de façon très forte. En discipline positive, on a une question qu'on pose aux parents qui est « Mais à quel âge vous pensez que les enfants sont capables de faire quoi ?» Par exemple, une machine à laver le linge. Pensez qu'à quel âge un enfant est capable de faire ça.
Il sous-estime.
En fait, quand on pense aux boutons, les parents disent « Ah oui, mais il y a des boutons. » Bah oui, bah les boutons, ils savent avec les téléphones, il n'y a aucun problème. Hein. À 6-7 ans, ils savent, ils sont tout à fait capables de gérer les boutons d'un lave-linge.
C'est sûr.
Donc après, ça va être vraiment de leur enseigner sur le long terme. C'est-à-dire, c'est pas on les laisse faire à 7 ans tout seuls dès la première fois. Mais très vite, ils comprennent. Ah oui, bah, trier le linge. On sait qu'ils sont capables de trier les couleurs, de trier les matières. Bien sûr, ils sont capables. À partir du moment où ils savent lire.
Oui. Donc, ce que vous dites, c'est que les parents ont tendance à sous-estimer leurs enfants par rapport aux responsabilités quotidiennes.
Ben, ils ont tendance à les gâter et à faire trop pour eux. Et une phrase que dit Drucker, c'est « ne jamais faire pour un enfant ce qu'il est capable de faire seul ». Vous imaginez le nombre de choses qu'on fait qu'ils sont capables de faire seuls. Vous imaginez, est-ce qu'à 12 ans, vous pensez qu'un enfant est capable de prendre son téléphone et prendre rendez-vous chez le médecin ?
Ben oui.
Ben oui. Et ben là, on le gâte quand on le fait pour lui. Donc c'est vraiment de se reposer cette question à chaque fois. Et de se dire, c'est pas à 18 ans, quand il part de chez nous, ou à 22 ans, qu'il est capable de tout faire alors qu'on lui a jamais rien laissé faire. Mmh. Donc ça va être de se dire, tranquillement, on va leur enseigner toutes ces compétences de vie pour qu'ils soient capables. Et en plus, quand on fait ça, c'est-à-dire que du coup, ils sentent ce sentiment d'importance. C'est pas le sentiment d'importance de « t'es beau, t'es merveilleux », c'est le sentiment d'importance parce que je suis capable de faire les choses que j'ai besoin de faire pour vivre dans la société, dans la famille, dans le... Et en fait, c'est vraiment cette idée de répartir les tâches, c'est-à-dire quel est le rôle du parent, quel est le rôle de l'enfant. Ben, le rôle de l'enfant, c'est de s'occuper de ses affaires. Le rôle du parent, c'est de s'occuper de ses affaires.
Ouais.
Et toutes les choses que l'enfant peut faire seul, ben, c'est ses affaires et c'est lui qui doit gérer.
Et est-ce qu'on pourrait du coup décrire la discipline positive comme des méthodes pratiques pour aider les enfants à apprendre l'autodiscipline, la responsabilité et la coopération ?
Entre autres, oui.
Alors, entre autres, ça veut dire que j'ai oublié quelque chose ?
En fait, c'est développer toutes les compétences psychosociales. Donc, la coopération, l'autodiscipline, sont quelques-unes des compétences, mais il y a aussi la communication, il y a aussi la régulation émotionnelle, il y a aussi, enfin, vous voyez, il y a encore beaucoup de choses qu'on peut développer en termes de compétences psychosociales.
D'accord. Et j'avais lu une citation de Drucker, « Un enfant qui se comporte de façon inappropriée est bien souvent un enfant découragé. Il en va de même pour les adultes.
Ouais. »
Vous en avez un petit peu parlé rapidement. Est-ce que vous voudriez insister un petit peu sur ce point
En fait, le découragement, c'est du manque de courage. Le courage, c'est ce qu'on... En fait, j'aime bien cette définition du courage, ce qui est le petit pas qu'on fait pour aller vers le meilleur de soi-même quand l'inverse est si facile. Donc le courage, c'est aller faire de la gym quand rester dans mon canapé, c'est si facile. Le courage, c'est dire la vérité quand mentir, c'est si facile. Le courage, c'est ça va être reconnaître mon erreur quand dire « c'est pas moi, c'est si facile ». Donc, le courage, on en a besoin à chaque instant, tous les jours, de façon répétée. Et ça demande un effort. Ça demande un effort pour aller vers quelque chose qui va être bon pour moi et pour le groupe, plutôt que la facilité d'aller vers des comportements qui sont ni bons pour moi, ni bons pour le groupe. Le courage, ça va être de ne pas tomber dans une addiction, ça va être d'arrêter son écran quand c'est le moment d'arrêter, vous voyez ?
Ouais,
c'est à tous les niveaux, on a besoin de ce courage-là. Et du coup, tout ce qui est comportement inapproprié, c'est qu'on manque de courage pour avoir un comportement approprié. On manque de courage parce que ça demande un effort supplémentaire, parce que ce comportement approprié, c'est-à-dire quelqu'un qui m'insulte, moi je reste respectueux vis-à-vis de lui, ça me demande du courage. Mm. Parce que qu'est-ce que j'ai envie de faire naturellement et spontanément, c'est lui en envoyer plein la figure.
Ouais.
Donc le découragement, si quelqu'un m'insulte et que moi, je réagis parce que je suis découragée, je vais réagir de façon automatique et je vais même pas prendre ce petit temps. Pour moi, le courage, c'est un petit instant où on se dit quelle est la meilleure option, quoi. Qu'est-ce que je peux faire de plus constructif, hein. Et ça, on en manque tous de courage. C'est-à-dire, c'est pour tout le monde, on est égaux là-dedans en tant qu'être humain. On manque tous de courage par moment. Donc, on a tous des moments où on a des comportements qui ne sont pas appropriés. Puis, il y a des moments où on a des comportements inappropriés. Et du coup, ça va être un enfant qui a un comportement inapproprié, c'est qu'il manque de courage à ce moment-là. C'est qu'il n'a pas eu ce petit moment où il se dit, tiens, qu'est-ce que je vais faire qui va être le plus approprié ou le plus constructif. Mais un adulte, c'est pareil. Un adulte qui a un comportement inapproprié, c'est qu'il est découragé. Et je vois bien, moi, quand je suis désagréable avec quelqu'un, par exemple, c'est que je n'ai pas de courage, c'est que je suis fatiguée, c'est que je suis stressée, c'est que j'ai plein de choses qui se passent pour moi et que je n'ai plus la capacité d'avoir ce courage, de prendre du recul et de me dire, bon, qu'est-ce que je vais faire de plus constructif. Donc, on va vraiment partir de ce principe-là et pas de se dire que la personne est une mauvaise personne, mais que elle manque de courage et que si on lui donne du courage, elle va réussir, elle va pouvoir arriver. Donc, c'est hyper optimiste comme démarche. C'est-à-dire, c'est vraiment de se dire, en fait, tous ces comportements inappropriés qu'on peut avoir les uns et les autres, si on avait un peu plus de courage, on arriverait à faire mieux.
Mmh.
Et donc, l'encouragement, vous voyez comment il est central. C'est-à-dire qu'à chaque instant, on a besoin d'encouragement pour pouvoir réussir à faire mieux. Et quand on voit... les gens qui nous aident à donner le meilleur de nous-mêmes et l'encouragement. Donc, tout à l'heure, je vous disais, le courage, c'est le petit pas qu'on fait pour aller vers le meilleur de soi-même et le meilleur pour les autres. L'encouragement, c'est l'espace qu'on laisse à l'autre pour faire ce petit pas. Donc, ça va être l'encouragement, ça va être de juste pas forcément accabler l'autre quand il a fait une erreur. Parce que quand il a fait une erreur, il est capable de se rendre compte tout seul qu'il a fait une erreur la plupart du temps. Donc, si on l'accable en plus, on ne va pas lui donner du courage, on va le démonter en plus et on va le décourager encore plus. Donc un enfant qui a fait une erreur, qui a tapé un autre par exemple, est-ce que vous pensez qu'il est capable de se rendre compte qu'il a tapé et que ce n'était pas génial ce qu'il a fait ?
Oui,
il est capable. À partir de 3 ans, 2 ans, il est capable de s'en rendre compte, même 1 an et demi, il est capable de s'en rendre compte, mais simplement on ne lui laisse même pas ce temps-là, on va l'accabler avant même qu'il ait eu le temps de réaliser. Et qu'on lui laisse l'espace de dire « Ah ouais, j'ai fait une erreur, c'était pas génial, il va falloir que j'aille m'excuser.
» Et puis on va les forcer.
Et bien il veut même plus s'excuser.
Oui.
Parce qu'on l'a découragé encore plus. Et donc il n'a plus le courage d'aller vers le meilleur. Donc c'est vraiment un mécanisme naturel. Il y a Jane Nelson qui dit « D'où nous vient cette folle idée qu'il faille qu'on fasse se sentir plus mal un enfant pour qu'il fasse mieux après ?» Un enfant fait mieux quand il se sent mieux.
C'est sûr.
Et c'est là que l'idée du courage, c'est-à-dire du découragement, on ne fait pas bien quand on est découragé. Et tout ce qu'on a à faire, c'est travailler sur le fait que l'enfant ait du courage pour qu'il puisse faire mieux. Ou l'adulte.
L'adulte aussi. Et pour revenir un peu sur le sujet de la coopération, est-ce que vous pourriez nous parler des 4 étapes pour gagner la coopération des enfants ?
Alors, de tête comme ça, les 4 étapes de la coopération. Ça va être entrer dans le monde de l'enfant, j'imagine. Je ne me souviens plus des étapes exactement qui sont écrites dans le livre. En fait, pour moi, gagner la coopération de l'autre, c'est être intéressé par l'autre, déjà, de façon globale. C'est-à-dire se dire qu'est-ce qui se passe pour lui ? Qu'est-ce qui se passe pour lui ? Qu'est-ce que je peux faire pour lui ? Comment je peux... En fait, parce que Souvent, ce qu'on fait, c'est qu'on va forcer la coopération. On va essayer de contrôler le comportement de l'autre, de l'enfant ou de l'adulte. Et gagner la coopération, ça va être de s'intéresser à lui et de lui demander ce qu'il pense de la situation, de dire nous ce qu'on pense et ce qu'on aimerait, et puis de chercher ensemble des solutions pour qu'il puisse combiner ce qui va être favorable pour les deux. T'as pas envie de ranger tes chaussettes. Ok. Donc ça, alors explique-moi, c'est quoi, qu'est-ce qui se passe pour toi ? Au moment où tu dois ranger tes chaussettes, c'est quoi la difficulté ? Qu'est-ce qui te pose problème ? Oui, le panier, en fait, il est trop loin, ça me casse les pieds. Panier à linge sale, ça me casse les pieds. Ah, ok. Donc, pour moi, c'est important que les chaussettes ne traînent pas par terre. Donc, comment on peut faire ? Et qu'est-ce qu'on pourrait faire pour que ça soit plus facile pour toi et que quand même les chaussettes soient dans le panier. Est-ce qu'on ne pourrait pas mettre le panier à tel endroit ou est-ce que je ne pourrais pas avoir un petit panier dans ma chambre ou... Voilà. Et on trouve une solution qui va convenir aux deux pour pouvoir... Donc ça, c'est pour l'enfant. Après, pour l'adulte, c'est, avec son conjoint ou un collègue. C'est énervant. Il y a les tasses qui traînent partout. C'est quoi le problème avec les tasses ? Qu'est-ce qu'on pourrait faire ? Comment on va faire pour que... Les traces ne traînent pas. Et qu'est-ce qui pourrait aider ? Est-ce qu'il y a un meilleur moment qu'un autre ? Est-ce qu'il y a... etc. Donc, en fait, ça va être juste de réfléchir ensemble, de s'intéresser à ce qui se passe pour l'autre, poser des questions qu'on appelle de curiosité. Donc, ça s'oppose au pourquoi, les questions de curiosité. Le pourquoi, c'est « Mais pourquoi t'as pas fait ça ? » Qu'est-ce qu'on sous-entend quand on dit ça ? Ce qu'on sous-entend, c'est « t'aurais dû faire autrement, c'est pas bien fait ce que t'as fait ». Y a un jugement de valeur quand on pose une question « pourquoi ?». C'est-à-dire, ça va être vraiment… c'est une accusation, en fait. Quand on pose une question « à pourquoi ?», on accuse l'enfant ou l'adulte de ne pas avoir fait ce qu'on aurait voulu qu'il fasse ou ce qu'il aurait dû faire. Et du coup, ce qui se passe, c'est que la personne qui est en face de nous, quand on pose une question « à pourquoi ?», va se mettre en défense. Donc, réaction-défense. Et du coup, justification. Alors, il y a trois réponses. Il y a « parce que », et puis on dit que c'est de la faute de l'autre. « Parce que tu m'avais dit que », donc soit on attaque, on réattaque, soit c'est la faute du frère « ah oui, mais parce que lui, il n'a pas, nanana ». Soit on trouve une raison abracadabrante. Ça aussi, à l'école notamment, c'est assez rigolo. Il y a des enfants, quand on leur dit « pourquoi tu n'as pas fait tes devoirs ?», on peut avoir mais des trucs. C'est-à-dire que l'enfant ne sait même pas pourquoi il n'a pas fait ses devoirs, il a juste oublié ou il n'en sait rien. Et il va trouver une raison abracadabrante. Donc, mais parce qu'on lui demande pourquoi, mais il ne sait pas pourquoi, souvent. Ou alors, sinon, on a le « je ne sais pas ». Et du coup, les questions de curiosité qu'on va poser, ça va être plutôt des questions en « qu'est-ce que » et en « comment ?» qui vont ouvrir la discussion. Qu'est-ce qui s'est passé ? Comment ça s'est passé ? Qu'est-ce que tu penses ? Comment tu vois les choses ? Qu'est-ce qu'on pourrait faire ? Qu'est-ce que tu imagines ? Évidemment, toutes ces questions-là, le ton est hyper important parce que si on dit si on pose la question sur un ton accusateur, on aura une réponse aussi qui sera de la défensive. Il faut vraiment être avec non-jugement et vraiment de l'intérêt de l'autre, de se dire mais qu'est-ce qui s'est passé pour lui, à quel moment, en fait. Souvent je me dis c'est comme un détective qui se dit mais à quel moment il s'est dit c'est une bonne idée de faire ça, et comment qu'est-ce qui s'est passé dans son raisonnement pour qu'il arrive à se dire, faire une bêtise qu'il a fait, voler le goûter du copain, à quel moment il s'est dit c'est une bonne idée ? Qu'est-ce qui a bien pu se passer dans sa tête ? Et lui-même ne le sait pas, c'est-à-dire qu'il n'a pas réalisé tout son processus, et ça va être de s'intéresser, d'explorer avec lui. Il sait bien que c'est pas OK de voler le goûter du copain. Maintenant, comment, du coup, comprendre ce qui s'est passé pour lui pour qu'une prochaine fois, ça ne se passe pas, ça puisse se passer autrement.
Ouais, donc en fait, c'est quand même réussir à faire preuve d'empathie, mais sans pour autant excuser le geste ou les paroles.
C'est ça. Ouais, c'est ça. C'est pour autant hyper responsabiliser l'enfant dans ce qu'il fait. C'est-à-dire qu'on ne va pas lâcher l'affaire. On va pas dire « Ah, t'as volé le goûter, c'est pas grave !» Non, c'est pas du tout ça. T'as volé le goûter, à quel moment, qu'est-ce qui s'est passé et comment, c'est-à-dire que y a, souvent, il n'y a même pas besoin de dire « Est-ce que tu penses que c'est bien d'avoir volé un goûter ?» Et il le sait, et on sait qu'il le sait. Et d'enfoncer le clou, ce n'est pas ça qui va être utile. Ça va être de dire « Ok, donc tu avais faim. Okay, bah, la prochaine fois que tu as faim et que tu as un goûter sous le nez, qui est le goûter de ton copain, qu'est-ce que tu pourrais faire ?»« Ah, bah, je pourrais lui demander. » »« Ah ben bah, voilà, ça c'est une option. Quoi d'autre ?» et si tu as faim et que tu as peur de lui demander qu'il te dise non, qu'est-ce que tu peux faire ? Ah, ben, je pourrais peut-être penser à prendre un goûter pour moi. Enfin, voilà. Et en fait, le faire élaborer pour qu'il ait d'autres... En fait, c'est... Quand il a un comportement inapproprié, c'est qu'il manque de stratégie constructive. Et donc, ça va être d'agrandir son répertoire de stratégie constructive pour qu'il puisse avoir en tête des options qui ne soient pas les options non constructives dans ces circonstances-là.
Oui, oui. Et je vais vous donner un exemple là, que j'ai vécu aujourd'hui pendant mes ateliers Montessori avec un groupe d'enfants. Mes ateliers ont lieu à mon domicile. Donc, quand les enfants... j'ai 25 mètres carrés. Et quand les enfants vont aux toilettes, forcément, c'est les toilettes de mon domicile. Et dans mes toilettes, il y a tous les dessins de mes filles accrochés au mur. Et à la fin des ateliers, on s'est rendu compte qu'il y avait 3 dessins qui étaient déchirés. Donc, voilà, elles étaient un peu embêtées, forcément. On a remis du scotch. Mais je me suis dit que j'allais en parler à ce groupe d'enfants demain. Donc, avec un exemple précis comme celui que je viens de vous décrire, qu'est-ce que vous diriez aux enfants et dans quel but ?
Dans quel but ? Ça, c'est quel est votre but de parler aux enfants ?
Bah,
Le but que je verrais, ça serait de se dire, il y a des enfants qui ont des comportements non constructifs et qui ne sont pas sociaux. Et comme mon but, c'est l'éducation, ce serait de développer des compétences qui fassent qu'ils soient capables d'avoir des comportements plus sociaux. Donc, le dessin en soi, quelque part, pour moi, il est secondaire. Donc, ça serait moi, ce que je ferais, c'est que je dirais, les enfants, voilà, j'ai remarqué que dans les toilettes, il y avait des dessins. Et là, je m'aperçois qu'il y en a 3 qui sont déchirés. Est-ce qu'il y en a qui savent ce qui s'est passé ? J'aimerais bien comprendre ce qui s'est passé à propos de ces dessins. Toutes les chances qu'on ait du silence. Ils ont quel âge ?
Entre 5 et 8 ans.
Entre 5 et 8 ans. Donc là, on va peut-être avoir des enfants qui peuvent parler, un peu plus qu'avec des plus grands. Et là, en fait, je laisserai du silence. Parce qu'en fait, souvent, on dit que les enfants n'ont pas de réponse. Il y a des études qui ont été faites, notamment sur les enseignants. Quand on pose une question à un enfant, vous savez combien de temps on laisse de temps avant de dire qu'ils n'ont pas de réponse ?
Le temps est trop court, j'imagine.
Deux secondes et demie. 2 secondes et demie avant de dire qu'ils n'ont pas de réponse. Donc, quand je pose une question, souvent, je laisse du temps. Je laisse du temps. Et donc là, il y en a un qui va dire « on ne sait pas ». Je vais laisser du temps encore, juste en les regardant avec bienveillance, en souriant. En disant, mais il n'y en a pas un qui a une idée de ce qui a pu se passer. Est-ce que ça serait qu'il y en a qui n'ont pas trouvé beau les dessins ? Qu'est-ce que vous imaginez que ça pourrait être ? Donc, peut-être même leur demander ce qu'ils imaginent que ça pourrait être, comme ça, ils le disent sans que ce soit... et dire, qu'est-ce que vous pensez ? Comment vous pensez que se sent l'enfant qui a fait ça maintenant ? Une fois, j'ai fait ça dans une classe, c'était une classe de CM1, et ils avaient créé un sac d'autorégulation, donc pour réguler leurs émotions avec des différents objets. Il y avait notamment une balle anti-stress, et la balle anti-stress avait disparu. Elle avait été... les petites filles arrivent près de moi, « Ah, la balle anti-stress a été volée, etc. Il y a un voleur dans la classe !» Et donc, je leur dis, qu'est-ce que vous pensez qui s'est passé ? Et donc, ils ont dit, il y en avait un qui avait dû avoir envie de la balle, ça donnait trop envie, etc. Et donc, je leur dis, vous pensez qu'il se sent comment, celui qui a fait ça ? Si toutefois, il y a quelqu'un qui a fait ça dans la classe, parce que c'est pas forcément... Et donc, ils disent, il doit se sentir super mal, ça doit pas être drôle. Il y en a un qui dit, j'aimerais pas être à sa place, vraiment, là, ça doit pas être super. Et puis là, c'était des vieux pupitres qu'ils avaient. Il y en a un qui ouvre son bureau et qui sort la balle. Qui dit, c'est moi qui l'ai prise. Et là, tout le monde le regarde et dit, mais dis donc, t'as vraiment du courage de le dire et tout, bravo. Il dit, oui, je le regrette, vraiment, elle me faisait trop envie, mais c'est pas cool ce que j'ai fait, etc. Et là, vous voyez, l'encouragement, c'est laisser la place à l'autre de faire ce petit pas pour aller vers le meilleur de lui-même et pour le meilleur pour le groupe. Mmh. Il s'est rendu compte qu'il y avait un enjeu, pas uniquement pour lui, et que ce qui était intéressant pour lui à ce moment-là n'avait pas la valeur de ce que le groupe portait. Et je pense que ça, bah, ça peut être fait dans cette situation-là des dessins de la même façon, c'est-à-dire de poser cette question sans jugement, en disant bah, est-ce que quand on a fait une erreur, on est une erreur aussi, on a eu toute cette discussion-là, c'est-à-dire que sur l'erreur, je leur dis bah, quelqu'un qui vole quelque chose, est-ce que c'est un voleur? Et ils m'ont dit bah, non, pourquoi? Enfin oui, non, ils m'ont dit oui, c'est un voleur. Je dis donc, vous avez 2 ans, vous êtes à la crèche, vous volez un petit camion dans votre crèche et vous êtes un voleur pour toute votre vie après. Là, ils me regardent, ils disent « Ah ben non, mais moi, ça m'est arrivé quand j'étais petit. » Et je leur dis donc, en fait, vous avez fait un vol, vous avez commis un vol à ce moment-là, vous avez pris quelque chose qui ne vous appartenait pas, et qu'est-ce qui ferait que vous deveniez un voleur? Ah, mais il faudrait le répéter plein de fois. Et je dis, et après, c'est-à-dire qu'une fois que vous avez répété combien de fois, il faudrait le répéter combien de fois? Ils ne savent pas plus dire, là, forcément, parce que... et je leur dis, à quel moment la personne peut s'arrêter d'être un voleur? C'est-à-dire, parce qu'elle peut être un voleur, mais après, elle peut ne plus devenir un voleur. Mais comment on sait ça? Ah, ben en fait, c'est ce qu'elle fait. Je dis donc, en fait, on va se baser sur les actions de la personne. Donc, c'est, elle a commis un vol, elle a commis 2 vols, elle a commis 15 vols, peut-être 20. Et puis après, elle arrête de commettre des vols. Et voilà. Et si on arrêtait de mettre une étiquette de qui la personne était parce qu'elle avait commis un vol ou fait une bêtise ou fait une erreur? C'est pareil, au bout de combien de maladresses qu'on devient maladroit? C'est-à-dire, au bout de combien de fois on devient l'erreur qu'on fait? Ça va être vraiment de se poser cette question en termes d'erreur, de se dire, mais en fait, on catalogue les gens dans les erreurs qu'ils commettent de façon un peu systématique. Et c'est dommage parce que ça laisse plus l'opportunité de sortir de cette étiquette, c'est-à-dire et de grandir autrement et de développer d'autres qualités et de ne pas renforcer ce trait qu'on peut avoir.
Oui, c'est très intéressant. Et bah merci beaucoup Nadine pour aujourd'hui. Si vous êtes d'accord, on va terminer avec les 3 questions habituelles. Est-ce que vous auriez un livre déjà pour commencer, un livre que vous aimeriez partager avec les auditeurs?
Bah, La discipline positive de Jen Nelson. Ça, c'est la référence en termes de discipline qui est vraiment très, très intéressante.
Ouais. J'ai une amie qui me l'a prêté, ça doit faire plus d'un an, mais je ne l'ai toujours pas rendu parce que voilà, il est à côté de mon lit et de temps en temps je relis un petit passage et ça fait du bien en fait.
Ouais. Et il existe le livre pour les enseignants, les livres pour les parents solo, le livre pour les parents ados. Les cartes-outils pour les enseignants, les cartes-outils pour les parents. Et je vous recommande tout, même si vous n'avez pas d'ados, de lire le livre pour les ados, ça peut être intéressant. Le livre pour les parents solo, même si vous n'êtes pas parent solo, il y a toute une partie sur les émotions que je trouve passionnante. Donc, je les recommande. Pour les 3-6 ans aussi, qui vient de sortir. Donc, je vous les recommande tous vivement.
Oui. Moi, là, je lis celui pour les ados en anglais. Comme ça, en même temps, j'en profite pour m'améliorer.
C'est bien.
Est-ce que vous auriez une citation à partager?
Alors, j'aime bien la citation de Rudolf Dreikurs, « L'eau est à l'enfant ce que l'eau est à la plante. Mm-hmm. » L'encouragement est à l'enfant ce que l'eau est à la plante. C'est-à-dire que l'encouragement, c'est non seulement important pour l'enfant, mais c'est vital. Une plante sans eau... ne va pas survivre. Et du coup, un enfant sans encouragement, ça ne va pas donner un enfant qui va développer son plein potentiel.
Oui, oui. Et est-ce que vous auriez un coup de cœur ou un coup de gueule à partager?
Un coup de cœur, c'est tout ce qui se passe en termes de discipline positive dans l'Académie d'Amiens. Depuis 5 ans, il y a un projet de développement dans les écoles. On a formé... des milliers de personnes, des assistants d'éducation, aux enseignants, aux chefs d'établissement. On a formé presque tous les chefs d'établissement du second degré de la Somme, les directeurs de primaire, les IEN, certains IAIPR. On a vraiment formé les CPE, les psychologues scolaires, les infirmières scolaires, les assistantes sociales. Enfin, on a vraiment formé, dans la somme, un nombre incalculable d'acteurs de l'éducation. Et je pense que, enfin, pour moi, c'est un coup de cœur parce que c'est un gros projet que je mène et que je trouve passionnant, qui est mené au niveau de l'éducation nationale par Anne-Sophie Pourcher, qui est infirmière conseillère technique auprès de l'inspecteur d'académie. Et c'est vraiment quelque chose que jamais j'espérais développer dans si grande ampleur et qui est absolument colossal, de voir que l'éducation est partie prenante de ce genre de démarche, l'éducation nationale. C'est un projet qui est financé par l'ARS, donc il y a aussi l'ARS qui est vraiment partie prenante de ce projet. C'est un pari que le développement des compétences psychosociales va être une prévention pour la santé des jeunes. Donc c'est vraiment intéressant de voir qu'ils sont innovants dans l'Académie d'Amiens, qu'ils ont vraiment envie de faire grandir leurs jeunes, qui ont, il faut le dire, hein, c'est une région où il y a quand même des au niveau, c'est la Picardie-Maritime est connue et reconnue pour avoir besoin de relever sa jeunesse. Donc, je trouve que ce projet est vraiment très intéressant et on est en train d'évaluer comment ça pourrait être transférable dans d'autres départements.
Donc un beau coup de cœur. Mais je suis contente d'avoir enregistré cet épisode avec vous aujourd'hui parce que je sentais depuis quelques mois là, que je m'éloignais un peu de la discipline positive en tant que maman. Donc voilà, ça me fait une petite piqûre de rappel et ça va permettre aussi aux auditeurs soit de replonger dans la discipline positive, soit de plonger pour la première fois. Donc, c'est super. Merci beaucoup, Nadine.
Oui, et puis... je voulais juste ajouter que ce qui peut intéresser les personnes, c'est qu'il y a une association de discipline positive France qui s'appelle Association Discipline Positive France. Le site, c'est disciplinepositive.fr. Et il y a des multitudes d'ateliers et de formations qui sont données par les formateurs de discipline positive en France. On est à peu près 250 aujourd'hui. C'est vraiment... donc, si vous êtes intéressé par trouver des ateliers ou des formations près de chez vous, n'hésitez pas à aller voir sur ce site où tout est répertorié.
Je mettrai le site dans les notes de l'épisode.
Merci beaucoup.
Merci. Si ce podcast vous a plu, je vous rappelle que je compte sur vous pour laisser un commentaire sur votre plateforme d'écoute et une note de 5 étoiles si vous êtes sur Apple Podcast. C'est la meilleure solution pour donner de la visibilité au podcast et contribuer vous aussi à cette révolution éducative. Et n'hésitez pas à partager les épisodes qui vous plaisent. À la semaine prochaine !